groupes prophétiques qui viennent puis qui viennent nous bénir dans la présence du Seigneur, puis aussi avec le message du Seigneur, comme les messages prophétiques, pour nous apprendre à être à l'écoute de la voix de l'Esprit. Le Seigneur veut faire un œuvre au milieu de nous. Il veut qu'on devienne des soldats inébranlables. Il veut qu'on devienne des disciples. Mais des fois, on a besoin qu'il vienne nous parler directement. Ça fait du bien. Puis je remercie le Seigneur de l'œuvre qui a commencé. Puis même aussi quand on a chanté le petit chant qui nous disait qu'on sautait dans la rivière. Il faut le croire que spirituellement, on est en train d'avancer avec le Seigneur, puis avancer, aller plus profondément dans la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut qu'on apprenne à se laisser conduire par lui. Parce que ça, ce message-là d'avancer dans la rivière, c'est pas quelque chose qu'elle a inventé, c'est quelque chose qui est écrit dans l'Ancien Testament, où ce que le prophète a été invité à aller dans les eaux encore plus profondes, puis il y avait de l'eau jusqu'à une certaine hauteur, puis après ça, une certaine hauteur, puis après ça, des torrents qui avaient de la misère à nager. Mais il faut s'imaginer que spirituellement, ça avait un symbole de pouvoir avancer jusqu'au bout dans la présence de l'Esprit. Est-ce que vous êtes encore dans la situation de dire « je nage dans l'Esprit » Alléluia! Le Seigneur veut faire une œuvre encore ce soir, puis je crois que de semaine en semaine, il faut croire que de semaine en semaine, à chaque fois qu'il nous parle par des messages, il veut continuer à nous former, il veut continuer à bâtir sur ce qu'on sait déjà, il veut continuer à nous édifier les uns les autres, qu'on devienne des rochers spirituels ou des personnes qui marchent à la stature de Jésus. Alléluia! Il est important d'apprendre à connaître les différents aspects de la parole de Dieu afin de bâtir notre vie de prière sur sa parole. Tu sais, des fois, on essaie de croire à une vie de prière par ce qu'on ressent. C'est pas sur ce qu'on ressent qu'il faut bâtir notre vie de prière. C'est sur sa parole. Parce que c'est dans la parole de Dieu que sont ses promesses, ses garanties. Tout ce qui est écrit est vrai. Il n'y a aucun mensonge d'écrit là. C'est le seul livre qu'on peut prendre comme du cash. C'est le seul livre qu'est-ce qui est écrit, ça va s'accomplir. Jésus a dit, il n'y a pas un seul trait de lettre, un seul iota de lettre. Juste ça veut dire que dans l'écriture, il n'y aurait même pas un accent grave ou un accent circonflexe, mais là, c'est écrit en hébreu ou en grec. Il n'y a pas une seule frappe d'une lettre qui va disparaître avant que tout s'accomplisse. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça a de l'air du solide quand on est sur la planète, hein? Y a-tu de quoi qui a de l'air plus solide que ça? Puis ça va disparaître. Ça demeurera pas. Il dit, le ciel et la terre, tout ce qu'on voit, la multitude des étoiles, le Seigneur va tout rouler ça, il va changer ça comme un vieux vêtement. Puis il dit, ma parole ne passera point. Tout ce qui est écrit là, ça va rester. Puis c'est des paroles qui sont fiables, qu'on peut bâtir notre vie là-dessus. On parle encore sur le thème de la prière, puis ce soir, c'est encore une continuité. Une de la première partie, c'est comme pour nous parler d'un point qui pourrait être un empêchement à nos prières, parce qu'il est important qu'on passe à travers de chacun de ces passages-là, qu'il y a comme, on dirait qu'il y a des clauses, on dirait qu'il y a des conditions, on dirait qu'il y a des choses qui pourraient peut-être faire un obstacle. Mais il est important de les connaître afin qu'une fois qu'on sait c'est quoi, que notre vie, mais on ne fasse pas ce qui est écrit là, mais on fasse le contraire. Ou c'est une promesse qui nous dit faites ça, mais qu'on fasse ça afin d'obtenir. Le Seigneur, ses promesses sont oui, amen, mais c'est vrai qu'à quelque part, il y a des petites clauses. Puis il faut apprendre à les connaître. La deux semaines, je partageais encore sur la suite de dire de rechercher la paix et la poursuivre. Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais ça, il faut garder ça dans notre pensée tous les jours de notre vie. Qu'on doit rechercher la paix avec tous, avec Dieu, mais aussi envers notre prochain. Et plus que j'étudie ce thème-là, bien, je m'aperçois que c'est très important de veiller à notre état spirituel. Si on veut favoriser le regard de Dieu dans nos vies, est-ce qu'on veut que Dieu nous regarde continuellement et qu'il soit content de ce qu'on fait? Mais il faut veiller sur notre état spirituel. Le Seigneur a déjà ses regards sur nous. Il nous le manifeste à plusieurs manières dans son assemblée, par des prophéties, des messages encourageants, mais aussi par des exaucements de prières. Le Seigneur nous le montre qu'il est là, mais il veut continuer, lui, à tous les jours, d'être, avoir des regards bienveillants sur nous. Mais il faut faire attention de la manière qu'on se conduit afin de favoriser toujours que les regards de Dieu soient sur nous. La plupart de tous les versets qu'on a vus sur les empêchements des exaucements de prières, ça a toujours un lien plus ou moins direct avec notre relation avec Dieu puis notre relation envers notre prochain. Tous les passages dans la parole qui nous parlent qu'on pourrait être empêché de recevoir, la majorité, c'est toujours face à notre relation avec notre prochain. Ce soir, on va voir un autre point, on va ouvrir nos Bibles dans Jacques au chapitre 4. Le Seigneur veut nous apprendre encore, veut perfectionner notre prière afin qu'on soit sûr et convaincu que notre prière est entendue et que notre prière est exaucée. Alléluia, moi je dis amen à ça. Jacques 4, le verset 3. Mais restez dans Jacques 4 parce qu'on va relire d'autres versets autour après ça. Jacques. James. 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques, là, il est au courant comment est-ce que Dieu était prêt à exaucer les prières. Il est au courant de toutes les promesses que Jésus avait dit. Il est au courant, même dans d'autres passages, il dit que la prière du juste a une grande efficacité. Il est au courant que le désir de Dieu était d'exaucer les prières de ses enfants. Mais là, il est en train de faire comme un constat, une constatation que là, vous êtes en train de vous demander, mais vous ne recevez pas. Puis il leur dit aussi la raison, parce qu'ils demandaient mal. Est-ce que ça se peut que je pourrais demander des choses à Dieu avec empressement, avec une constance, avec une résolution, puis que je ne sois pas exaucé? Est-ce que ça se peut, ça? Pourtant, Dieu, dans sa parole, nous a dit, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Mais quelque part, Jacques avait remarqué que ces personnes-là, ils étaient en train de demander, puis ils ne recevaient pas. Mais quand on lit ces passages-là, on va se dire, « Ouais, ça veut-tu dire que Dieu n'est pas prêt à exaucer selon toutes ses promesses? » Il nous a dit que tout ce qu'on demanderait par la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il y a plein d'autres promesses qu'on a vues dans ce sens-là. Non, mais il est en train encore de nous dire qu'il y a peut-être une clause à laquelle il faut penser quand on prie. Le Seigneur, lui, il regarde dans notre cœur. Restez dans Jacques. 1 Samuel 16, le verset 7, il dit, « L'Éternel dit à Samuel, je prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu, ce qu'il regarde, c'est le motif réel de nos requêtes. Ça veut dire qu'à quelque part, si Dieu regarde le motif réel de mes requêtes, il faut que moi aussi, je regarde quels sont mes motifs quand moi, je me présente à Dieu et que j'ai des requêtes à lui demander. Si je reste dans Jacques, dans le chapitre 4 encore, mais on va lire à partir du verset 1. Dans le contexte que ces gens-là ne recevaient pas, mais Dieu voyait quelque chose, puis Jacques aussi voyait quelque chose pour faire en sorte que ces gens ne reçoivent pas. Il dit, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ces personnes-là, là, ils vivaient d'une manière à satisfaire leur passion, leur motif, leur but quand ils étaient avec les autres, c'est d'être en lutte, d'être en querelle, parce qu'ils étaient excités par une passion qui faisait qu'ils étaient jaloux l'un de l'autre, ou ce qu'il y avait des motifs qui n'étaient pas purs, ou ce qu'ils regardaient l'autre par un esprit de compétition, ou un désir d'être comme lui ou être meilleur. Le point que ça l'emmenait, c'est que ça l'emmenait des querelles et des luttes. Puis à cause que ces querelles et ces luttes-là étaient là, ces gens-là, ils étaient en chicane avec certaines personnes à cause de leur compétition. Puis là, ils demandaient à Dieu des choses encore pour, comme si c'était pour avancer encore plus dans leur compétition, puis dans leur querelle, puis dans leur chicane. Puis voyez-vous que dans le contexte qu'il était dit, ces passages-là, que les gens n'avaient pas un cœur selon Dieu. Dieu, comme il nous dit, il nous regarde au cœur. C'est beau qu'on puisse se demander des requêtes, mais quel est le motif dans lequel on les demande? Recherchons-nous des exaucements avec des motifs animés par la compétition, l'orgueil ou la recherche de s'élever un empire meilleur que les autres? Même si on dit qu'on présente des requêtes au niveau spirituel, « Oh, moi, j'aimerais ça que mon église, elle devienne une grosse église dans Châteauguay. » Qu'on devienne une église nombreuse comme celle de Claude Houde. Qu'on puisse commencer à faire même encore plus d'œuvres que Claude Houde. Qu'on commence à regarder que là, Claude Houde lui fait des choses, mais nous autres, on pourra faire encore mieux que lui. Puis commencer à faire comme une compétition, puis avoir de l'émotif d'orgueil qui nous anime à essayer de se bâtir quelque chose encore plus gros que les autres. Ça, c'est l'émotif que Dieu regarde, même si ce serait des prières qui sont faites pour l'avancement de son œuvre. Ou même, on peut arriver à présenter des requêtes pour des motifs égoïstes, personnels, être en guerre avec nos frères et sœurs à cause de nos convoitises. Parce que veut, veut pas, ça arrive qu'on peut être tombé en chicane à cause que on a une relation avec une certaine personne, avec un frère ou une sœur, puis là, pour une raison ou pour une autre, mettons, quelqu'un qui se rajoute dans sa vie, une nouvelle brebis qui se rajoute, puis là, elle s'occupe plus de cette brebis-là, puis moi, je suis négligé, puis là, je pars en guerre, je pars en chicane, je pars en passion, en convoitise ou en combat avec la personne, puis là, je jalouse l'autre, puis là, ça fait une situation qui est comme un motif qui n'est pas celle que je pourrais être exaucé de la part de Dieu. Ou bien, ça pourrait être l'autre, un frère, il était béni, il a une super bonne job qu'il a eu de la part du Seigneur, puis moi, je commence à être jaloux, puis je commence à dire, moi tout, j'en veux une. Puis ma raison, c'est que je vais en avoir une pour avoir la même chose que lui. Lui, il peut se permettre des voyages dans le sud, puis il peut se permettre d'avoir un auto neuf, puis se permettre ci, permettre ça. Puis là, on commence à demander dans le but d'alimenter des motifs égoïstes. Même si on ferait des prières par la foi, pensant que Dieu les entend, puis que Dieu va nous exaucer, même si on ferait des prières avec une constance, puis avec résolution vouloir les avoir, si notre motif n'est pas pur, on ne l'aura pas. Mais le Seigneur nous parle de ces choses-là afin qu'on regarde quels sont les motifs qui animent nos requêtes. Dieu veut qu'on reçoive. Jacques avait vu que ces gens-là, ils étaient en lutte, ils étaient en querelle, il y avait des passions qui combattaient dans leur personne, ils convoitaient, ils ne possédaient pas, ils étaient meurtriers, ça veut dire qu'il y avait même de la haine envers certains frères, ils étaient envieux de ce que les autres frères possédaient, puis il dit, vous ne pouvez pas posséder, il disait des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal, puis il dit, vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Avons-nous oublié les paroles que Paul a dit dans Galates 5, 24, qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. » Quand on a décidé d'abandonner notre vie pour suivre le Seigneur, on a dit « Seigneur, moi, je veux plus faire ma vie selon ce que moi, je la voulais. Je veux faire ma vie comme toi, Seigneur, tu la veux pour moi. » Puis si on s'enligne dans ce sens-là, là, on dit « Je ne vais plus pour ma convoitise, je ne vais plus pour mes passions, je ne vais plus pour mes buts, mes objectifs, mes choses que j'aimerais avoir, posséder ou même désirer. Si je l'ai, tant mieux, gloire au Seigneur, mais c'est plus pour ça qu'on vit. On vit pour servir le Seigneur puis recevoir du Seigneur tout ce qu'on a de besoin. Puis si on a décidé de crucifier notre chair, on n'écoutera plus cet élan-là de notre chair qui va nous mettre en querelle envers notre frère et notre sœur, qui va nous pousser à désirer ce que l'autre possède, puis qui va nous faire convoiter avec orgueil ce que les autres peuvent avoir, puis désirer avoir la même chose ou avoir plus. Ça, c'est des motifs que Dieu voit, puis ça produit des prières qui ne sont pas entendues. Est-ce que je recherche à m'intégrer au plan de Dieu en renonçant à moi-même, puis en recherchant la place que Dieu veut que j'atteigne, en aspirant à la vie de l'Esprit que Dieu a préparée d'avance pour moi? Si on pense dans ce sens-là, Dieu a promis de répondre à toutes nos prières. Quand on ne demande pas selon sa volonté, on ne peut pas avoir l'assurance qu'on est exaucé ou qu'on sera exaucé. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 et 15, nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si on est rentré dans son plan, puis qu'on marche par l'Esprit, avec la vision que l'Esprit nous pousse, et avec la vision que la parole de Dieu nous pousse, il dit n'importe quoi qu'on demande, il dit si vous demandez quelque chose, peu importe ça, il dit pas qu'il y a des clauses, sauf ne demande pas pour avoir un autre auto, ou ne demande pas pour avoir une autre maison, ou demande. Il n'y a pas de « demande pas », il dit « tout ce qu'on peut demander au Seigneur ». Si ce n'est pas animé d'un but qui est un motif de convoitise ou de guerre ou de querelle ou un motif de, qui n'est pas pur, si on a un motif qui est pur, un désir de vouloir faire avancer l'œuvre du Seigneur, un désir à que Dieu pourvoie aux choses nécessaires, aux choses de tous les besoins qu'on a besoin dans ce monde-ci, dans ce temps-là, il n'a pas besoin de tout. Mais de prier pour un chameau, ou un dromadaire, ou une mule, ou un âne, parce qu'il avait besoin de transporter leurs affaires avec une charrette qui va avec, peut-être avec une charrette à deux roues ou à quatre roues, s'il avait son besoin était plus élevé. Puis il le demandait par la foi, puis Dieu pourvoyait, parce qu'il avait promis de pourvoir si c'était pour l'avancement de son œuvre. Si s'il demandait une charrette à quatre roues parce qu'il était en querelle avec son voisin, que lui, il n'avait une à quatre roues, puis il avait des mags sur sa charrette, puis lui, il en voulait une avec des mags encore plus beaux. Mais toute la voyez-vous, là, c'est quoi qui anime notre requête? Ça veut dire que si je demande quelque chose en étant conduit par son esprit et sa parole, je suis convaincu de posséder ce que j'ai demandé, parce que je bâtis ma vie sur la promesse du Seigneur que je vous ai mentionnée, que je viens juste de vous mentionner. Donc, il est possible d'arriver à d'avancer par la foi puis de croire qu'on est écouté et qu'on reçoit parce que nous aspirons à voir ce qui a été promis dans sa parole. Est-ce qu'on comprend ce point-là? Ça peut arriver quelque part dans notre vie que tout ce que je demande, que je peux arriver dans une situation que je crois que Dieu m'écoute. Parce que je sais que je le demande dans des bonnes dispositions, puis je sais que je le demande guidé par son esprit, puis je sais que je le demande conformément à sa parole, puis je sais que j'ai le droit de le demander, puis de le réclamer, et de croire par la foi que Dieu va me l'accorder. Parce que c'est promis, à plein passage dans sa parole, c'est promis, et de chercher premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses seront données. Tout ce qu'on a de besoin. Ben si, après ça, on dit, ouais, mais là, un auto, c'est pas écrit, un auto. Oui, mais... Seigneur, il voit qu'on a besoin d'un auto. Il faut voyager 50 kilomètres, mettons, un exemple. Il sait. Il s'agit qu'on le demande par la foi, puis si on le demande dans le but qu'il pourvoit quelque chose qui est un besoin, il a promis de le faire. La seule affaire, il faut y aller avec sagesse, puis de remettre ça entre ses mains, puis de s'endetter le moins possible. Mais le point de la promesse que je vous ai lue dans 1 Jean 5, 14, il dit... Ici, nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ici, nous savons qu'il nous écoute. Savez-vous si Dieu vous écoute? Là, je pose la question à chacun de vous. Savez-vous que... Est-ce que Dieu vous écoute? Je vais vous le dire avec une pleine liberté ce soir. Oui, Dieu m'écoute! Avez-vous cette liberté-là, cette foi-là que Dieu il écoute vos prières? Si vous n'avez pas cette pensée-là, il faudrait peut-être que vous revisiez votre vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'il faudrait que vous arriviez à croire que Dieu vous écoute. Là, il nous dit, si nous savons qu'il nous écoute, est-ce que vous le savez qu'il vous écoute? Mais si je sais qu'il m'écoute à soir, je peux déjà savoir que je vais être exaucé. Parce que Dieu, si je sais qu'il m'écoute, ça veut dire que ses oreilles attentives à ma prière. Puis il dit, si ses oreilles sont attentives à mes prières, c'est pas pour me torturer en m'accordant pas ce que j'ai demandé. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on obtienne, afin que notre joie soit parfaite. En réalité, la foi, c'est de savoir que je suis exaucé, que je suis écouté et exaucé. La foi, c'est de savoir que je suis écouté et exaucé. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Avez-vous la foi en Dieu ce soir? Si vous avez la vraie foi, c'est que Dieu, vous devez vous dire, « Je sais que Dieu m'écoute et je sais que je suis exaucé. » Ça, c'est la vraie foi. Si je dis, « Je suis pas sûr si Dieu m'écoute, puis encore moins de l'avoir, je prends une chance, comme un billet de 649, je prends une chance d'offrir ma prière à soi, puis peut-être que je vais l'avoir, peut-être que je ne l'aurai pas. » Son pas excédé là, c'est pas de la foi et c'est pas une prière qui va être exaucée. On y va par notre chair, on y va par qu'est-ce qu'on ressent, au lieu de croire que c'est écrit que Dieu était prêt à nous exaucer. On a dit tout à l'heure que la parole de Dieu, c'était de quoi de solide qu'on pouvait croire que ça, c'est la parole de Dieu, on pouvait bâtir notre vie. On est sûr que ça disparaîtra pas, on est sûr que tout va s'accomplir. Est-ce qu'on croit que tout va s'accomplir? Même cette promesse-là qui dit que Dieu nous écoute et que Dieu va nous exaucer, ça va s'accomplir. Sinon, si on pense que ça ne s'accomplira pas, on va tout se mettre déchirer cette page-là. Puis là, il y a peut-être d'autres versets que j'ai nommés depuis le temps qu'on parle de la prière. On va déchirer toutes ces pages-là qu'on n'est pas sûr que Dieu exauce. Puis je pense qu'avec le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible, je pense que notre Bible va devenir que ça dépaisse au lieu d'être ça dépaisse. On veut-tu y croire qu'est-ce qui est écrit? Puis Dieu veut qu'on y croit. Il nous l'a laissé. Il y a du monde qui ont payé de leur vie pour qu'on puisse avoir une Bible dans nos mains aujourd'hui, 2000 ans après. Parce que Dieu voulait qu'on ait une dans nos mains. Il voulait qu'on ait connaissance de ses promesses. C'est notre héritage. Il nous a déjà donné un acompte sur notre héritage. Il nous a donné son Saint-Esprit, qui est le gage d'un héritage. C'est une garantie comme quoi qu'on fait partie de ses promesses, qu'on fait partie de ceux qui les promesses sont pour nous. Il y a un amen à quelque part. Là, ce soir, vous avez vu ce passage-là qui dit « D'où sont les luttes, les querelles parmi vous, tout ça, d'où viennent ces choses-là? » Il dit ça, ça vient de vos passions. Bon, là, à partir de ce soir, classez ça. Tout ce qui vient de mes passions, je tosse ça. Je filtre tout ce que j'ai comme émotion, comme arrière-pensée quand je demande de quoi. Puis je suis vrai, puis je dis, je le demande pour l'œuvre de Dieu, ou je le demande parce que c'est un besoin dans ma vie. Je n'ai pas en rapport avec une compétition ou une querelle ou un motif égoïste ou un motif d'orgueil. Je le demande par la foi, puis je crois que Dieu va le faire. Si on part avec cette idée-là, on peut même annoncer d'avance, check bien ça, Dieu va répondre à ma prière. On peut être sûr d'avance qu'on annonce la chose qu'elle va s'accomplir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, si tu crois ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu peux même l'annoncer d'avance. Mon Dieu est capable de pourvoir à cette chose-là, puis il va pourvoir parce que c'est son plan. Dieu me l'a promis de répondre. Suite à la visite du groupe de jeunesse en mission, là, ils sont venus à lundi aussi, pour ceux qui étaient là, on a pris un temps de louange et de prière, d'intercession. Mais en même temps, c'était comme guidé par le Saint-Esprit. Moi, je l'ai senti, je l'ai vécu, que le Saint-Esprit m'amenait à intercéder, à prier, mais aussi prophétiquement. Comme si je le croyais que Dieu était... Quand on chante les chants aussi, n'oubliez pas que c'est des chants prophétiques. Il y a plein de chants qui annoncent la venue de Jésus, qui annoncent que Dieu va faire ci, va faire ça. Puis si vous croyez, mettons, vous êtes en... Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Puis là, vous vous imaginez qu'on est dans le Canada au complet, puis que là, il y a un étendard, il y a une bannière qui s'élève au-dessus du Canada, puis c'est le nom de Jésus. Vous y croyez, puis nous voulons voir Jésus élevé. Puis on le croit prophétiquement, puis on le confesse de notre bouche, puis on croit que ce qu'on vient de déclarer dans ce chant prophétique, c'est une promesse que Dieu a promis d'exaucer nos prières et qu'on peut le croire que prophétiquement que Dieu va le faire. Sinon, si on ne croit pas ça, on peut souvent tout fermer nos livres de chant et commencer à chanter « Un jour, peut-être, j'aurai la vie éternelle. » Chanter avec ce chant-là. Mais tous les autres chants ont rapport avec les choses de cette vie, de l'esprit qui coule. Puis c'est maintenant que l'esprit coule, c'est pas dans la vie éternelle. Il va couler aussi là, mais présentement, on peut s'attendre à ce que l'Esprit soit répandu dans Châteauguay, puis qu'il y ait un réveil dans notre ville, qu'il y ait des milliers de personnes qui se convertissent, qu'il y ait des églises qui se trouvent dans toutes les villes et dans tous les villages, qu'on puisse devenir une église mère, une grosse église, dans le but d'enfanter d'autres églises ailleurs, puis de former des disciples, que des gens qui soient remplis de l'Esprit y aillent dans la moisson. Est-ce qu'on peut croire ça, que Dieu veut ça? Oui, on peut le croire. Dieu veut ça. On peut le confesser haut et fort quand on entend les chants de manière prophétique. Dieu va le faire. Quand on chante, il y aura un réveil, bien, il va en avoir un. Il faut le croire que le chant qu'on est en train de chanter, c'est une prophétie qu'on annonce suite à nos prières. Pour revenir au groupe de jeunesse en mission, quand on est en train de prier puis de louer le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit à emmener à je voyais les chants que je déclarais de par ma bouche, puis que je voulais que ça s'accomplisse, puis je les déclarais qu'ils étaient en train de s'accomplir. Puis sur quelle base qu'on les déclare que ça va s'accomplir? Sur la base qu'on l'a demandé par la foi, toutes ces prières-là, depuis des années que des gens qui prient qu'il y ait un réveil au Québec, depuis des années que l'Esprit de Dieu parle par la bouche de ses enfants, de ses prophètes, pour annoncer qu'il y a un réveil, puis qu'annoncer qu'on doit élargir notre temple, puis annoncer ci, annoncer ça, qu'il y a l'œuvre de Dieu, la moisson de Dieu s'en vient. On peut le croire et l'annoncer. Est-ce qu'on le veut? Moi, je le vois en tout cas. Je crois que Dieu veut qu'on rentre dans cette dimension-là de paroles prophétiques. Pas nécessairement qu'on va devenir des prophètes, comme qu'il y avait des ministères de prophètes, comme des ministères d'évangélistes ou des ministères de pasteurs. Mais la Bible, elle nous dit, aspirez au don de prophétie. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu peut vivre. D'être à l'écoute du plan de Dieu dans notre esprit, le Saint-Esprit nous souffle ses pensées par sa parole, puis aussi par ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut ressentir, et en mettant notre foi à ce qu'on vit, qu'on puisse l'annoncer que Dieu va le faire. Puis on peut croire que Dieu va le faire. Les déclarations prophétiques, que ce soit par les chants, c'est comme une coche de plus aux prières de la foi. Parce qu'une prière de la foi, je demande la chose à Dieu, et je crois que ça va s'accomplir. Mais qu'est-ce qui serait encore une coche de plus que ça? C'est de l'annoncer haut et fort, de le proclamer que Dieu va l'accomplir. C'est d'annoncer un message, annoncer quelque chose, annoncer d'avance que Dieu va répondre à notre prière. Ça, c'est un message prophétique, puis Dieu s'attend à ce qu'on marche par la foi, et puis Dieu s'attend à tout ce qu'on demande dans nos requêtes, qui est demandé dans la foi. Il veut qu'on le sache que ça s'en vient, que ça s'accomplit, puis il veut qu'on le prononce, qu'on le déclare, puis qu'on l'annonce. Que ça s'en vient, il y a un réveil qui s'en vient au Québec. Il y a un réveil qui s'en vient dans Châtelier. La puissance de l'Esprit va s'étendre, puis là, il va y avoir des âmes qui vont être sauvées. Puis ça va s'étendre dans toutes les villes et les villages environnants. Puis il faut le croire que c'est la vouloir de Dieu, et c'est le diable veut pas qu'on dise ça, parce que là, il vaut mieux qu'on confesse ça. On vit dans un monde où ce que le monde ne croit pas. Puis je pense que c'est bien dur de gagner un homme. J'ai travaillé pendant 6 mois pour essayer de parler à une personne. Puis la vie chrétienne, c'est pas facile. Si on marche dans ce sens-là, l'ennemi est content, on dérange rien de ses plans et de ses projets. Nous sommes les agents actifs du changement que Dieu veut faire dans ce monde. Puis si on y croit notre rôle d'ambassadeur, si on y croit notre rôle d'enfant de Dieu, on est dans une position où on peut renverser les forteresses de l'ennemi, où on peut proclamer les vérités de Dieu, de la parole de Dieu et le mouvement que le Saint-Esprit veut faire. On peut l'annoncer, puis l'ennemi prend le débarque. Puis la chose s'accomplit, telle que Jésus l'a promis, que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. C'est basé sur ces paroles qu'on annonce ces choses-là et qu'on va les voir s'accomplir. Y a-t-il un amen là-dessus? C'est de déclarer, de confesser, de proclamer d'avance ce que nous croyons que Dieu va faire en répondant à nos requêtes. Là, si on transpose ça maintenant dans la pratique, il faut penser qu'on s'en va dans le parc dimanche après-midi. Puis moi, personnellement, je ne m'en vais pas là juste pour chanter. Est-ce qu'on va dans le parc juste pour chanter? Chanter pour chanter. On va juste regarder 2 passages. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais c'est vraiment le message que Dieu a mis dans mon cœur. J'avais pas réellement de message à apporter, puis ça, on était lundi à la réunion d'intercession. Mais là, le Seigneur m'a donné tac. Là, j'étais complètement convaincu, les 2 yeux tout grands ouverts, puis c'était ça. Dieu veut qu'on rentre dans ça, dans cette pensée-là. En 1 Samuel, au chapitre 10, vous n'êtes pas obligé d'aller le lire, je peux vous le lire rapidement. C'est quand que Samuel a oint Saül comme roi. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchelsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. » Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous tous, puis il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Parce que Saül était parti à la recherche des brebis que son père avait perdues. Puis Saül a rencontré le prophète Samuel, puis là, c'est Samuel qui dit ça. Saül, c'était le futur roi d'Israël. Il dit de là, après avoir rencontré, là, il annonçait prophétiquement les choses qui étaient pour y arriver. Il dit de là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gabéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Dis-moi ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est en remerciement à Dieu. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre, puis l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Selon les commentaires bibliques, les prophètes, quand ils prophétisaient, comme là on a vu, ils descendaient du haut lieu, précédé du luth, des tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Les prophètes, là, quand ils prophétisaient, ils étaient par groupe, ils s'en allaient dans un haut lieu, un lieu public, avec des instruments de musique, puis ça louait et célébrait le Seigneur avec des cris, avec des danses. Puis ils proclamaient les vérités de la parole de Dieu, les choses qui doivent s'accomplir, qui avaient été écrites dans les prophètes. Ou les choses qui pouvaient même être inspirées par l'Esprit de Dieu à dire dans ce moment-là, comme on peut voir que Samuel il est en train de prophétiser ce qui arriverait. Il disait d'avance les choses qui doivent arriver dans la vie de la personne, mais il était averti par Dieu de le dire. Ça, faut pas oublier ça. Mais poussé par le Saint-Esprit d'annoncer les choses à venir. Mais les groupes de prophètes sont descendus dans un lieu public avec des instruments de musique, en train de louer et célébrer le Seigneur avec des cris, des danses, des chants de réjouissance en proclamant les vérités de la parole de Dieu. Ça vous dit pas quelque chose? Moi, je pense que c'est ça qu'on s'en va faire dimanche après-midi. On s'en va dans un haut lieu, dans un parc, un endroit public, où est-ce qu'on s'en va là pour prophétiser à la vue de tous les gens, par des chants, par des cantiques, par des cris, des danses, par des paroles annoncées qui viennent de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut se passer quand il y a un groupe qui est en train de louer par le Saint-Esprit? Oui? Le Saint-Esprit descend. Puis qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit quand il est descendu? Il peut toucher des personnes. Saül est approché du groupe. Paf! Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il s'est mis à prophétiser lui aussi. Moi, je crois que Dieu peut faire la même chose encore aujourd'hui. Puis je crois que Dieu veut le faire. Mais si les chrétiens ne sortent pas pour aller prophétiser, qui c'est qui va y aller? Dieu a demandé à nous autres d'aller annoncer les vertus de la parole de Dieu, d'aller annoncer la parole de Dieu, annoncer le salut en Jésus, annoncer le retour de Jésus, annoncer qu'un jugement venait. C'est toutes des prophéties. On s'en va là pour prophétiser. On peut parler aussi des choses que Dieu est en train de faire dans Châteauguay par son esprit, que Dieu va renverser, qui est en train de renverser des forteresses. Puis on peut même annoncer d'avance que Dieu va changer les cœurs et les vies des gens qui vont venir dans notre présence. Il y a un autre passage qui est similaire dans Samuel chapitre 19. Saül, le roi, à un moment donné, s'est rebellé, puis il était rejeté comme roi, puis même il avait perdu l'Esprit du Seigneur, puis même un esprit mauvais qui venait de l'Éternel, qui était permis par l'Éternel, avait atteint Saül. Les seules choses qui pouvaient le soulager, c'est quand David prenait un temps pour louer le Seigneur à côté de lui, l'esprit mauvais s'en allait. Mais Saül, ça c'est premier, pour ceux qui prennent des notes, c'est 1 Samuel 19, 20 à 24. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, la même chose qu'on vient de voir dans l'autre contexte, ayant Samuel à leur tête. Puis l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, parce que là, Saül voulait saisir David. Puis là, Saül a envoyé un de ses serviteurs aller voir Samuel, puis il a dit, « Va chercher David, puis ramène-les. » Ce personnage-là s'en va, puis il rencontre le groupe de prophètes en train de prophétiser. Puis il dit là, l'Esprit de Dieu, il saisit les envoyés de Saül, puis ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Puis là, on fait un rapport à Saül qui envoya d'autres gens, puis eux aussi ils prophétisèrent. Puis en envoyant encore d'autres pour la troisième fois, puis ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arriva à la grande citerne qui était à ses coups, puis il demanda « Où sont Samuel et David? » Puis on lui répondit « Ils sont à Najot, près de Rama. » Puis il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, puis Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à l'arrivée à Najot, près de Rama. Moi, prophétiquement, je vois que Dieu veut faire quelque chose. Est-ce qu'on va aller dans le parc juste pour chanter? Est-ce qu'on va aller dans le parc pour aller rencontrer notre Dieu, puis invoquer notre Dieu pour qu'il descende, puis que la gloire de Dieu se manifeste dans le châtelier? C'est ce qui va se passer. L'Esprit du Seigneur a touché ces gens, puis je crois que lorsque nous irons dans le parc dimanche, ce n'est pas pour chanter, mais pour aller proclamer, annoncer, prophétiser le réveil de Dieu dans cette ville. Puis il faut y croire par la foi que qu'est-ce qu'on dit, ça l'arrive, puis on le verra s'accomplir. Puis on peut l'annoncer d'avance. Les compagnons de Daniel ont répondu au roi, quand Shadrach, Meshach et Abednego avaient reçu l'ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le roi de Babylone a fait une statue de 90 pieds de haut, 9 pieds de large. Puis là, il a dit que toutes les gens, toutes les tribus, tous les peuples dans son royaume, au son de la musique, se prosternent devant sa statue. Eux autres, les trois compagnons de Daniel, ils ont dit « Oublie ça, on ne se prosternera pas. » Mais on va aller juste lire le passage bien vitement. Les compagnons de Daniel, dans Daniel 3, le verset 15 à 18. Maintenant, tenez-vous prêts. Là, il lui dit un second avertissement. Vous ne l'avez pas fait le premier coup. Là, je vous donne une deuxième chance de vous prosterner. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, le chalumeau et de la guitare, de la sambuque, le plectrum, la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il y avait de l'audace, il se pensait bon. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Il dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Moi, le Dieu que je sers, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il n'y a pas rien d'eux. Puis il nous délivrera de ta main, ô roi. Il a annoncé d'avance. Il croyait que par la foi que Dieu était capable de délivrer de la main du roi. Puis Nebuchadnezzar régnait sur toute la terre. C'était pas n'importe qui. Puis là, il était capable, eux autres, dans leur foi, d'aller voir ce gars-là et dire, « J'ai pas besoin de te répondre quel Dieu qui va venir puis va me délivrer de ta main. Mon Dieu que cher, il est capable de le faire puis il va venir le faire. » Puis il dit, même si ça n'arrivera pas, sache qu'on ne servira pas tes dieux, puis on n'adorera pas la statue que tu as élevée. Il paraît que son visage a changé. Il est enragé bleu. Il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Tant qu'ils ont ouvert la porte pour jeter les serviteurs, les compagnons de Daniel, ils ont ouvert la porte, le feu a sorti tellement fort que tu es serviteur de Nebuchadnezzar. Là, ils les ont jetés dedans. Puis là, l'ange de l'Éternel, il est apparu. Il était avec eux au milieu du feu. Puis il n'y a même pas un morceau de linge qui a brûlé, même pas un cheveu. Ils ne sentaient même pas la boucane parce que Dieu les a délivrés. Puis il l'avait annoncé prophétiquement que Dieu était capable de le faire. Puis Dieu, il l'a-tu fait?
Oui.
Dieu l'a fait parce qu'ils croyaient en leur Dieu. Il n'y a pas réellement un verset pour s'appuyer pour ce cette clause-là? Y a-t-il un verset qui parle de feu ardent, de fournaise ardente, où est-ce que je pourrais m'appuyer pour croire que Dieu... Non. Dieu avait déjà donné ses promesses dans la parole des prophètes, annoncées d'avance à toute la descendance d'Israël, puis eux autres croyant en ce Dieu-là, puis ils s'appuyaient à ces promesses-là, puis ils ont parlé haut et fort en proclamant que ces promesses-là vont s'accomplir. Ça s'est accompli, ça s'est accompli. Puis des exemples dans la Bible, il y en a... J'aurais tout sorti, qu'est-ce qui aurait pu être sorti, on sera encore là la semaine prochaine. C'est vrai. C'est plein de passages qu'on pourrait aller lire que des gens sont, ils ont cru en Dieu puis ils ont été exaucés. Croyez-vous que Dieu peut nous exaucer? Que Dieu veut qu'on embarque dans ce sens-là, dans un esprit prophétique, puis de croire que ce qu'on va annoncer d'avance, parce qu'on croit que ça vient de sa volonté puis de son plan, puis on va le voir s'accomplir. Il n'a pas dit que ça sera en une journée, mais qu'on marche une attitude de foi continuelle, puis en continuant à intercéder, puis à présenter les requêtes. Il faut croire que Dieu écoute nos prières parce qu'elles sont conformes à sa parole. On va chanter des chants. Sylvain va avancer avec le groupe musical, puis on va aller prendre un temps de louange. Je sais que ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va axer nos requêtes pour dimanche après-midi quand on va aller dans le parc. On va dans le parc, on s'en va là pour annoncer la parole de Dieu, on s'en va là aussi pour louer et glorifier Dieu en prophétisant puis avec des cris, avec des danses, des cris de réjouissance pour aller célébrer l'Éternel. On s'attend que l'Esprit de Dieu vienne faire un œuvre pour changer le cœur de ceux qui vont s'approcher du groupe de ses enfants qui vont être là en train de prophétiser. Ça s'est fait, je peux croire que ça peut se reproduire. Et même si ça n'a pas été fait, on peut le croire pareil parce qu'on croit que c'est dans le plan de Dieu. Que Dieu peut le faire et que Dieu va le faire, parce que Dieu veut le faire. Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair, afin que nos fils et nos filles prophétisent. Mais Dieu veut le faire encore aujourd'hui, d'annoncer les choses qui vont s'accomplir, puis qu'il va exaucer nos prières. On va faire un peu comme à la réunion d'intercession lundi. Sylvain va jouer un chant, peut-être deux. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Puis, quand on va tous se lever debout, puis quand on va être en train de louer puis de célébrer le Seigneur, si vous avez des idées de sujets de prière que vous voulez amener dans le sens qu'on sort puis on veut que Dieu étende sa main dans toute notre ville et dans toutes les villes et les villages environnants, on peut demander des requêtes en les criant à haute voix puis en les confessant à haute voix. Ça peut être une personne qui se lève. Ben pas que cela, on va être tous debout, mais qui dit haut sa prière. Ça peut être deux, trois en même temps aussi en d'autres moments. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Si on a à cœur une poussée qui vient, que Dieu veut faire une requête, présentez-la au Seigneur. Puis ensuite, croyez que Dieu entend nos requêtes. Des prophéties de ce genre, ça se fait depuis le début. Il faut rentrer dans notre rôle de qu'on est des enfants de Dieu qui marchent dans l'Esprit de Dieu et qu'on a des promesses qui est à nous. Y a-t-il un amen là-dessus?